Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il était une fois une petite fille que nature avait délicatement façonnée. Regardez-la, à commencer par sa tête blonde, dont elle colore les joues de rouge, Brésil, dans le texte du XIIIe siècle. Petite bouche, lèvres fines, dents serrées, je nulle si belle volte n'est verrée, jamais vous ne verrez un aussi beau visage. Puis, elle modèle le cou long et blanc, les épaules arrondies, de petites mains aux doigts fins, et puis encore, seins bien faits, flanc mince, hanches larges, cuisses tendres, les jambes droites, fille nature et orteils à mesure. Un jour, le père de cette belle enfant apprend que le roi d'Angleterre a eu la fâcheuse idée d'exclure les filles de l'héritage. Quelle injustice, se dit-il, lui qui n'est pas certain d'avoir un jour un héritier mâle. Alors, Cador, car tel est le nom du père, dit « Je veux faire de ma fille un garçon. Il suffit de lui faire couper les cheveux, de l'exposer au froid et à la bise afin que son teint brunisse un peu et de fendre ses draps brais calciers. » Ça veut dire que travestir sa fille en garçon, la déguiser en homme, ce n'est pas une affaire. Il suffit de fendre un peu sa tunique de manière à ce qu'elle puisse faire du cheval puisque, on l'a dit, la mode vestimentaire avant 1350 est souvent unisexe. C'est moins l'habit que l'éducation qui en fera un homme. Dès lors, l'intrigue romanesque oppose deux allégories. Nature, qui l'a faite fille, et nourriture, qui fabrique un garçon. Leur conflit est complexe. Et on ne peut le rabattre sur nos catégories modernes de nature, culture, essence, apparence, et pas davantage de sexe et genre. Parce que la nature, c'est l'autre nom de Dieu. Et nourriture désigne ce que les hommes en font. Mais, au fait, comment va s'appeler notre héros ou héroïne ? Silence. Silence sera son nom. Ainsi en décide son père. En latin, on dirait « silentius », mais ici, la transition de genre est facilitée par la nature épicène du nom propre en langue romane. Et si par hasard, je cite le texte, on vient à découvrir sa nature, nous changerons cette « us » en « a » et elle aura pour nom « silentia ». Et c'est ce qui finit par arriver. Attribué à un mystérieux Eldris de Cornouailles, le roman de Silence ne nous a été transmis que par un seul manuscrit de la seconde moitié du XIIIe siècle, conservé à Nottingham. Il a été découvert dans les années 1970 par Lewis Thorpe, et depuis il y a évidemment une très abondante bibliographie dans laquelle je retiens les études de l'historienne Peggy McCracken et de Florence Bouchet aussi, qui l'a traduit en français moderne. Il a même été le roman de Silence adapté par le poète Jacques Roubaud. Mais le roman du XIIIe siècle, ce roman expérimental, ainsi que l'appelle Mireille Segui, narre l'éducation, puis les prouesses de Silence, d'abord comme jongleur, ensuite comme chevalier. Mais il expose aussi les doutes de Silence, tiraillés entre deux normes allégoriques. En tant que garçon, ma vie est plus facile, reconnaît Silence. J'ai non seulement gagné en force physique, mais aussi en pouvoir. Je domine. Je suis au-dessus. Pourquoi voudrais-je aller en dessous? Parce que trop dure bouche est pour baiser. Parce que ma bouche est trop dure pour donner des baisers. Et Silence veut connaître l'amour. Silence laisse alors éclater son trouble. Soit je suis silencius, soit Josuinus. Entendez, je ne suis nul, je ne suis plus personne, mais aussi je suis nu, je suis à nu dans ma vérité. Donc, le dénouement de cette histoire est aussi un dénuement. Il fait intervenir Merlin, le magicien, le prophète arthurien, dans son rôle anthropologique de trickster. Parce que le roman de Silence, du point de vue littéraire, c'est un avatar romanesque de l'histoire de Merlin. L'histoire où Merlin, déguisé en homme sauvage, était chassé par Grisandole, un chevalier qui était né fille. Et dans le roman de Silence, eh bien, Silence est alors à la cour du roi d'Angleterre et subit l'agression sexuelle de la reine Euphème, qui endosse ici le rôle de la reine biblique Putiphar. Donc c'est un viol, mais où la tyrannie masculine, dont nous parlions la semaine dernière, a inversé ses polarités. Merlin dénonce le viol de la reine d'Angleterre. Il dénonce aussi une nonne qui vit aux côtés de la tentatrice, en révélant que cette nonne est en fait un homme qui a pris l'habit de monial pour devenir l'amant de la mauvaise reine. Apprenant cela, le roi la fait écarteler. Silence peut alors retrouver son rôle féminin. On la loue d'être restée un preux chevalier, c'est-à-dire chaste, et elle peut épouser le roi. Happy end, la morale est sauve, c'est celle que Jean de Main donne à la continuation du roman de La Rose. Morale un peu réactionnaire, toute créature veut retourner à son état naturel, elle n'y renoncera jamais, même si on lui fait violence par la force ou les convenances. Silence s'appellera désormais Malduit, c'est-à-dire mal instruit. Il est d'autres romans chevaleresques du travestissement et de la transsexualité, faisant de la différence des sexes une lutte entre nature et noriture. Dans Ide et Olive, qui est l'épisode d'un cycle de suite de Huon de Bordeaux, et qui brode sur le motif des métamorphoses d'Ovide, c'est une jeune fille, Ide, qui quitte un père incestueux en se déguisant en chevalier. Alors elle devient Idée, alors elle tombe amoureuse d'Olive, et Dieu lui accorde la grâce d'une transition de genre pour consommer son mariage. Dans sa bonté, Dieu lui envoie et donne tout ce qu'un homme a dans sa nature d'homme. Ce matin, c'était une femme, maintenant, c'est un homme. Dans Tristan de Nanteuil, qui est une chanson de geste du milieu du XIVe siècle, Blanchandine, séparée de son mari, est elle aussi travestie en homme et part en Orient, où la fille du sultan s'éprend de lui. C'est alors que Dieu, là encore, lui fait don d'un pénis, car il doit engendrer le futur Saint Gilles, qui a un rôle à jouer dans l'ordre de la Providence, puisque, vous savez peut-être, c'est Saint Gilles, c'est à Saint Gilles de révéler l'inceste de Charlemagne, puisque Roland, le Roland de la chanson de geste, est le fils que l'empereur a eu avec sa sœur. Vous saviez pas? En tout cas, dans toutes ces fictions, je suis désolé de vous l'apprendre aussi brutalement. En tout cas, dans toutes ces fictions littéraires, la dissimulation, le travestissement font intervenir le déguisement. Entre le costume et la coutume, liés d'ailleurs par une étymologie commune, il n'y a qu'un us qui, dans le roman de Silence, modifie le nom et change le sexe supposé d'un personnage androgyne. Son habit, je l'ai dit, est d'abord unisexe, mais une fois fondu, lui permet d'enfourcher la monture d'un apprentissage de la masculinité, et l'intrigue avance au pas de la virilisation croissante de Silence à l'épreuve de la guerre. Nature peut alors crier sa rage que Noriture lui déguise sa créature. Cette fente est une feinte, mais ce n'est pas une fraude, parce que Silence n'apparaît forte que vêtue. Et si elle se dénude du costume dont elle s'affuble, le texte dit donc qu'elle se défuble vers 2571, eh bien, d'une certaine manière, elle revient à elle-même. D'où son nom. Dans le roman de Jacques Roubaud, le personnage se nomme Silence parce qu'il est né sans pousser de cris, souriant à son père et à sa mère qu'il a regardé avec amour. Or, dans le roman du XIIIe siècle, travestir rime avec thésir, puisque silence doit taire sa nature véritable, cette nature féminine qui le voue à l'amour. Passant dessus-dessous, elle retrouve l'amour, mais renonce au pouvoir. Si ce passing médiéval nous plonge toujours dans les silences de l'histoire, pour reprendre le titre du livre de Michel Perrault sur les femmes, elle ne nous éloigne pas de l'ordre des pères. « Tu seras un homme, ma fille », dit Cador, et c'est bien lui le père dans le roman de Silence, ou Dieu le père dans Tristan de Nanteuil, qui autorise cette expérience fictionnelle de la transmasculinité. La critique littéraire féministe et queer a rapproché ces textes des vierges jurées qu'étudièrent les ethnologues en Albanie essentiellement, mais aussi dans d'autres régions balkaniques, et qui existaient encore au début du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est que les vierges jurées? Eh bien, c'est en fait le fait que pour contourner la rigueur patrilinéaire du droit lignager, des jeunes filles prêtaient serment de chasteté et, prenant un habit d'homme, endossaient un devenir masculin avec l'accord des pères de la communauté. Or, cette pratique remonte à un canum, c'est-à-dire à un code de loi qui a été édicté au XVe siècle par un prince du nord de l'Albanie qui est nommé Leke Lukagjini. Le genre n'apparaît donc pas ici comme un attribut d'identité sexuelle auquel on est assigné à la naissance, cette vérité du sexe dont doutait Michel Foucault, mais bien à une capacité d'action. Une capacité d'action et de relation, comme l'a notamment montré Marilyn Stratern, une anthropologue océaniste. Mais c'est d'ailleurs dans cette perspective théorique que s'inscrit le livre important et novateur de Clovis Maillet, paru en 2020 sous le titre « Les genres fluides » de Jeanne d'Arc aux saintes trans, qui propose une archéologie médiévale de la transidentité. Si le changement de genre est pensable au Moyen-Âge, s'il est pensé, et s'il est pensé comme une émancipation, c'est-à-dire comme la possibilité d'un parcours qui, par le costume, par l'éducation, fabrique du masculin pour élargir une capacité d'action, si tout cela est pensable, c'est à l'intérieur d'une anthropologie chrétienne de la parenté qui induit ce que j'ai proposé d'appeler le désordre des pères. Et le premier des pères de l'Église, Augustin, adversaire farouche de tout dualisme, s'est déjà opposé à la naturalisation du dimorphisme sexuel en une binarité identitaire. Pour lui, dans la cité de Dieu, oui, la création est binaire, mais au sens où elle sépare l'âme, qui n'a pas de genre, et le corps qui, lui, est genré. Si bien que, puisque les hommes et les femmes ont la même âme, Augustin n'en doute pas, mais pas le même corps, eh bien, je cite, cité de Dieu 15:7, « L'homme qui commande à la femme doit ressembler à l'âme qui commande à la chair. » Cette double création, où binarité non binaire autorise donc une certaine fluidité de genre. Clovis Maillet a ainsi étudié les six saintes trans qui apparaissent dans la légende dorée de Jacques de Voragine, et notamment Joseph Hildegonde et Eugène Eugénie. La première est Joseph Hildegonde, c'est la fille d'un chevalier de Neuss, en Rhénanie, qui a accompagné son père en pèlerinage dans les années 1180. Elle a alors 12 ans. Et pour sa protection durant le voyage, son père l'habille en garçon et l'appelle Joseph. Mais le père meurt sur le chemin du retour, et donc Joseph revient seul en Allemagne. Il redevient en Allemagne à un moment Hildegonde et entre comme servante chez un vieux chanoine de Cologne, mais lorsqu'il décide de rentrer comme novice au monastère de Schönau, entre Bâle et Fribourg, alors Yel reprend l'habit et le nom de Joseph et s'y illustre en vision mystique jusqu'à sa mort le 20 avril 1188. Et dans son hagiographie, Engelhard von Langheim raconte les choses ainsi en toute simplicité. Dans ce monastère vint un jeune homme dont le nom était Joseph. Il entra, introduit selon la règle et converti lui-même à la règle auprès de tous. Après sa mort, on fit passer le genre masculin au féminin. En effet, c'est la toilette mortuaire de Joseph qui révèle ses attributs sexuels et rend possible la réassignation de genre genus masculinum in feminum transiuit. C'est désormais sous le nom de Sainte Hildegonde qu'on révère aujourd'hui cette mystique allemande tous les 20 avril, qui est à la fois la date de sa mort et de sa transition de genre post-mortem. Cela prouve donc qu'une femme qui fait l'homme peut devenir un saint de son vivant, c'est-à-dire un homme vierge. Cela était déjà arrivé à Eugène Eugénie, au IIIe siècle de notre ère, dont la vie grecque est, je l'ai dit, reprise par Jacques de Voragine dans la Légende dorée. C'est là encore une jeune femme qui vécut une partie de sa vie sous un habit d'homme, dans un monastère, mais un jour, une femme l'accuse de viol. Alors pour se défendre, elle dévoila ses seins lors de son procès. Et cette scène a été peinte dans certains manuscrits de la Légende dorée. Surtout, elle a été sculptée sur un magnifique chapiteau de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Mais le plus important est ce qu'on lit dans sa vie latine. Malgré ce dévoilement, elle montre ses seins pour se défendre d'une accusation de viol, puisque pour eux, une femme ne peut pas en violer une autre. Eugénie, malgré ce dévoilement, Eugénie reste Eugène et on lui dit « Tu as raison de t'appeler Eugène, car tu agis en homme. » Et dans la Légende dorée, cela donne « Tu as raison de te dire homme, car bien que tu sois une femme, tu te comportes comme un homme. Recte vir diceris quia cum sis femina viriliter agis. » C'est-à-dire, on pourrait aussi traduire par « Tu agis virilement. » De la même façon, je cite, qui imputerait une faute à Sainte Marine, qui vécut inconnue, toujours en habit d'homme, dans un monastère d'hommes, et prenant les sacrements avec les moines. C'est la même chose de Sainte Eugénie, qui vécut en habit d'homme, très vertueusement et chastement. Ainsi, cette Jeanne était légitime de recevoir l'Eucharistie dans cet habit. Voilà ce que l'on entendit à Rouen en 1456 lors du procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc, exécutée 25 ans auparavant, le 30 mai 1431. Car le quatrième des chefs d'accusation, je voulais en venir là, bien sûr, retenu contre la jeune fille de Don Rémy, morte au bûcher à 19 ans, après avoir délivré Orléans et des Anglais et fait sacrer le roi Charles VII à Reims, c'était d'avoir très tôt porté un habit d'homme en contradiction avec la règle du Deutéronome 22.5. Une femme ne portera pas un costume masculin et un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Quiconque agit ainsi est en abomination à Yahvé, ton Dieu. On lui reprocha, évidemment, bien d'autres choses dans ce procès politique. Et l'imputation d'hérésie y pesait sans doute bien plus lourd, mais le fait que, craignant à un moment d'être violée par des soldats rouennais, elle reprit l'habit masculin après avoir signé d'une croix la lettre où elle affirmait y renoncer, en reconnaissant ses erreurs, et bien ce fait-là, la fit relapse et précipita sa mise à mort. Donc la question c'est pourquoi celle qui se faisait appeler Jeannette commença à s'habiller en garçon et à se couper les cheveux courts alors qu'elle était encore à vos couleurs. Cette question, on lui a posée maintes fois. Et durant son procès, elle ne varia jamais dans sa réponse. Jeanne répondit que ce fut par sa propre volonté, sans aucune contrainte, et que cet habit lui plaisait plus que celui de femme. Les juges qui prononcèrent sa réhabilitation, plaidèrent la nécessité. Il lui fallait s'habiller en homme pour mener une vie combattante. Mais en réalité, lors de sa première mission en Lorraine, elle fut reçue par l'entourage royal, déjà en vêtements de jeune homme, et non en habit militaire. C'est plus tard qu'elle reçoit son armure. Non, sans l'avoir préalablement, évidemment, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de cette jeune fille habillée, je ne veux pas dire déguisée, elle n'est pas déguisée, elle n'a jamais dit qu'elle était autre chose que Jacques. On vérifie, c'est-à-dire qu'on la soumet à un examen qui est mené par l'épouse de Raoul de Goncourt et les dames de la reine de Sicile. Jean Pasquerel témoignera à son procès qu'elle a été examinée pour savoir si elle était homme ou femme et qu'on la trouva femme mais vierge. Et le médecin Guillaume de la Chambre prétend l'avoir vue presque nue et lui ayant palpé les reins la trouva incorrompue et vierge. En fait, c'est pas très clair. On ne sait pas s'il s'agit d'un examen de virginité ou d'un examen de genre. Mais de toute façon, les médecins médiévaux n'ont pas une idée très nette de ce qu'est l'hymen. C'est une obsession du XIXe siècle, pas avant. Et vierge signifie rien d'autre ici que simplement jeune fille, pubère, sortie de l'enfance et non mariée. Le sens est le même que pucelle, qui vient de puella, et qui est attesté comme surnom de Jeanne dès 1429, qu'elle se donne à elle-même, alors que pucelle d'Orléans est bien plus tardif, fin 15e et en tout cas posthume. Et voilà pourquoi les juges rendirent leur verdict de nullité du procès en 1456 convoquaient les exemples d'Eugène et Eugénie et de toutes les saintes qui, quoique déguisées en hommes, étaient restées des vierges de Dieu. Et puis, ils insistaient sur le fait que Jeanne n'avait jamais cherché, je l'ai dit, à se faire passer pour un homme. Une fois engagée dans son épopée militaire, elle se conduisit en preux. C'est ce que dit Christine de Pisan, sa contemporaine. Elle ne dit pas en preuse, elle dit en preux. Ça veut dire qu'elle ne dépareillait pas dans la compagnie virile. On notera d'ailleurs que, pour la diffamer, ses ennemis l'appelèrent plus volontiers et surtout plus longuement putain, putain ribaude, que sorcière. Elle était, pour les bourguignons, la putain des Armagnacs. Et c'était les prostituées, en effet, qui suivaient les armées et pouvaient s'habiller en hommes. Claude Gauvard l'a montré à partir d'un dessin griffonné dans la marge d'un registre civil du Parlement de Paris par le greffier Clément de Fauquenberger le 10 mai 1429. C'est un dessin très célèbre, puisque on le tient pour le seul portrait contemporain de Jeanne, mais c'est pas un portrait. Le greffier est à Paris, il ne l'a jamais vu, il en a entendu parler, plutôt en mal, évidemment, donc il la représente, l'épée à la main, seule ayant bannière entre les mains, comme écrit le texte qui accompagne le dessin, ce qui est sacrilège, mais il la dessine surtout les cheveux défaits, à la manière de Marie-Madeleine, et la robe largement décolletée sur une poitrine généreuse. Bref, il la dessine en prostituée. Dans le beau film de Bruno Dumont, Jeanne, en 2019, deux volets, 2017 était Jeanne d'Arc, d'abord Jeannette, puis Jeanne, le tout d'après Charles Péguy. Dans le deuxième volet, donc Jeanne 2019, elle n'est plus Jeannette, mais quand une paysanne des Landes septentrionales la croise et lui donne du Madame Jeanne, on voit que ça ne va pas, alors elle se corrige et l'appelle mon enfant. C'est qu'elle vacille. Dans le film, elle vacille, comme une flamme déjà. Elle a l'air d'avoir 10 ans. Elle semble entre deux âges, entre deux genres peut-être. En tout cas, comme l'écrit Clovis Maillet, Jeanne n'était ni sainte, ni transgenre. Sainte, elle le deviendra au XXe siècle, et transgenre, pour certains, pour certaines, au XXIe siècle, tenter d'en faire une héroïne queer. Mais il faut préciser que celle qu'on trouva femme mais vierge, donc ça veut dire pas entièrement formée comme femme, n'est devenue pleinement femme qu'au XIXe siècle, au moment où, faisant couple avec son ombre maléfique Gilles de Rais, personnifiant, je l'ai dit la semaine dernière, la dégénérescence meurtrière de l'aristocratie, Jeanne d'Arc incarne, au contraire, pour les médecins, pour les historiens, pour tous ceux qui aspirent, comme plus tard Charles Péguy, à la République universelle, la régénérescence morale de la nation française dans une féminité fantasmée. Mais que faisait-elle à combattre dans l'armée du roi de France ? Est-ce qu'elle ne transgressait-elle pas, en endossant le plus masculin des rôles, les canons virils de la mâle guerre ? Pour le savoir, plutôt que d'y projeter nos imaginaires du 19e, du 20e ou du 21e siècle, il convient d'abord de la réinscrire dans son temps et de constater que Jeanne d'Arc ne s'y trouve pas tout à fait seule. Elle n'est pas seule comme femme inspirée, car, ainsi que l'a montré André Vaucher, le 15e siècle est le grand siècle du prophétisme féminin, et cette féminisation de la parole inspirée, du pouvoir visionnaire qui accompagne l'essor de l'union mystique des saintes femmes est liée à la crise de l'autorité pontificale. On songe à Constance de Rabastens, on songe à Marie Robine, l'une et l'autre humbles femmes et prophétesses prises dans les tourments de la guerre de Cent Ans. La première, Constance de Rabastens, en albigeois, reçut des visions en 1384 et devient la sibylle de Gaston Phébus, comte de Foix, qu'elle conjurait de sauver la France de l'abîme. La seconde, Marie Robine, entendit dès 1398 des voix d'êtres célestes, lui enjoignant de convaincre le roi de France et le pape Benoît XII de travailler à l'union de l'Église. Les visions de l'une et de l'autre se ramenaient à un seul impératif, allons au roi. Et le lien entre Marie Robine et Jeanne d'Arc est explicité par l'homme de loi Jean Barbin, qui témoigne au procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc en 1456, toujours, en rapportant ses propos de celle qu'il appelle Marie d'Avignon. « J'ai eu de nombreuses visions à ce sujet. Quantité d'armes me sont apparues. J'ai eu peur un instant d'être obligé de les porter moi-même. Il me fut dit de ne rien craindre, qu'elles ne m'étaient pas destinées, mais bien à une pucelle qui viendrait après moi et délivrerait le royaume. » Jeanne n'est pas seule comme prophétesse, elle n'est pas seule non plus comme chef de guerre, femme chef de guerre. Colette Beaune a ainsi pu identifier 4 de ses doubles qui, poursuivant son aventure après sa mort ou se faisant passer pour elle, continuent son combat. Ce sont successivement Claude des Armoises, Marie la Ferronne, la Pucelle de Sermaise et une jeune personne dont on ne sait pas le nom, mais qui bénéficie d'une lettre du roi René II en 1451. La première, Claude des Armoises, elle était vêtue d'habits d'homme et menait des soldats au combat en se faisant appeler la Pucelle. Arrêtée, elle fut forcée de se marier, car ainsi que lui reprochait l'inquisiteur Conrad Kaltenstein, elle dépassait de tous les bornes elle dépassait en tout les bornes du sexe féminin. Voilà pourquoi, lorsque Jeanne fut capturée à Compiègne en mai 1430, le chancelier Renaud de Chartres eut l'idée de la remplacer, afin de ne pas démoraliser la troupe, par un adolescent pauvre qui, comme Jeanne, avait eu des révélations et pouvait être un gage de victoire. On l'appelait Guillaume le Berger, et il avait le grand avantage de ne pas se constituer en orgueil, lit-on. Entendez que lui ne porte pas d'étendard idéologique. Bon, son succès fut assez bref. Le 12 août 1431, 3 mois donc après la mort de Jeanne, il tombe dans une embuscade anglo-bourguignonne aux côtés de Poton de Xaintrailles. Il est livré à l'évêque Pierre Cochon qui le met dans un sac et qui le noie dans la Seine. Guillaume le Berger, ce qui est intéressant, c'est que lui, il ne pose aucun problème théologique, moral, politique. Il est innocent, il a été choisi par Dieu derrière son troupeau. Il peut servir de mascotte aux armées du roi. Il était, au fond, ce que l'on pouvait accepter de Jeanne. Parce que c'était un garçon sans pouvoir, un garçon qui ne prétendait pas se conduire virilement. Car je ne vous étonnerai pas, évidemment, en vous rappelant combien la pratique de la guerre est constitutive de la définition même de la virilité, entendue comme masculinité hégémonique. Après tout, c'est sur le slogan de « Colia, Colia, Colia » du condottiere Bartolomeo Colleoni que je vous laissais la semaine dernière. Bartolomeo Colleoni, ben, c'est juste, oui, une incarnation un peu outrée du fait que l'éducation chevaleresque est, au Moyen-Âge, une initiation à la masculinité qui culmine dans l'adoubement, rite de passage à l'âge adulte et d'intégration dans une société masculine à forte connotation d'homo-affectivité. Les pratiques, les valeurs chevaleresques qui trouvent à s'exprimer et à se configurer, d'ailleurs mutuellement dans la poésie lyrique et dans le roman arthurien, sexualisent le combat ou l'art de la guerre, rejoint de manière subtile, mais mortifère, l'art d'aimer. Nous en avons amplement parlé l'année dernière, je n'y reviens pas. Par conséquent, la masculinité combattante ne prend que rarement les attributs sexuels d'une virilité sottement et juvénilement ostentatoire. S'il entrait dans la virtus des anciens romains la vigueur et la résolution du vir, celui-ci trouve à se réaliser dans la mesure et dans la maturité. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut être adulte pour être viril. C'est ce qu'a montré Richard Fletcher pour le concept de manhood dans les sources anglaises de la fin du Moyen-Âge. Manly, se conduire en homme, y est employé dans un sens proche du latin virilitaire, virilitaire, mais c'est souvent à l'épreuve du combat qu'on apprend à se conduire comme un homme, c'est-à-dire ni comme un gamin, ni comme un vieillard. Retourne-toi si tu es un homme, vieux chevalier décrépit, lit-on par exemple dans Bevis of Hampton, chanson de geste anglo-normande du XIIe siècle. Ces valeurs de la masculinité combattante, comme force et comme maturité, s'imposent également aux sociétés urbaines. Les sociétés d'armes y apparaissent comme des lieux d'initiation et d'intégration aux solidarités masculines, des lieux où l'on fabrique du masculin, puisque, au fond, l'histoire du genre a retourné la fameuse maxime de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, « On ne naît pas plus homme qu'on ne naît femme, on le devient ». Par exemple, à Milan, on le devient en s'inscrivant dans une société d'armes. Si on est du popolo, c'est la société des costauds. Si on est de la militia, c'est dans la societas gagliardorum, la société des gaillards, gaillards contre costauds. Bon, tout cela, évidemment, ne va pas, convenons-en, sans une certaine dose de gaminerie, malgré la définition de la virilité. D'ailleurs, dans les villes du sud du Saint-Empire, qui ont été étudiées pour les 15e et 16e siècles par Jean-Dominique de Lelouch, qui est dans son livre paru en 2021 sous le titre « Des amitiés ciblées », les concours de tir, qui sont très nombreux dans ces villes allemandes, sont non seulement un instrument de diplomatie urbaine, mais une épreuve de solidarité masculine, par une compétition qui, elle aussi, est fortement connotée par l'homosocialité et par ce que l'historien appelle le spectacle public de la virilité. Concrètement, ces grandes kermesses que sont les compétitions d'arbalète et d'arquebuse sont aussi des foires à l'exclusion, où on se moque des rustres, des juifs, des aveugles, des femmes. Les femmes, d'ailleurs, contrairement aux tournois, qui aussi ont leur équivalent urbain, ne sont pas conviées comme spectatrices ou enjeux de la lutte. Ce sont elles qui sont placées sous le regard des hommes et en mauvaise part. Ainsi organise-t-on, par exemple, des courses humiliantes de prostituées, et souvent de prostituées nues. Et si le moins bon tireur de Nancy obtient comme lot de consolation en 1506 un chapon, c'est une truie que l'on offre à celui qui échoue au pied du podium, fameuse quatrième place. Le mauvais tireur est indigne du titre de bourgeois, mais il est aussi traître à sa propre virilité. Aussi doit-il mener sa truie en cortège jusqu'à son auberge, en une parodie nuptiale grotesque, qui est peut-être l'origine médiévale de tous ces rituels qu'on impose aux perdants, comme par exemple embrasser le cul de Fanny pour les bouddhistes malheureux. Et évidemment, devant des manifestations si caricaturales de virilisme, qui sont autant de substituts symboliques au monopole masculin sur la conduite de la guerre, on est tenté, bien sûr, une truie, des courses de prostituées, des compétitions de tir, on est tenté de renvoyer à la stabilité anthropologique d'une valence différenciée des sexes. Les hommes feraient la guerre et les femmes la paix. Les femmes font la paix soit comme objet transactionnel, l'échange des femmes met fin à la violence entre les hommes, soit comme agent pacificateur. Là encore, il est aisé de donner à ce partage des rôles une dimension non seulement genrée, mais sexuelle. On sait que le fameux adage de la contre-culture américaine des années 60, « Faites l'amour, pas la guerre », trouve son origine, en partie inconsciente, c'est vrai, dans une pièce joyeusement obscène d'Aristophane, l'Isistrata, où les Athéniennes prennent l'Acropole, entreprennent une grève du sexe pour que cesse la guerre du Péloponnèse. Et c'est une pièce qui est jouée en 411 avant notre ère, au moment de la reprise des hostilités de la guerre du Péloponnèse. Donc c'est une pièce d'actualité. Et chez Xénophon, la grève du sexe tourne en guerre des sexes, et l'audacieuse Lysistrata dit aux femmes « Ne faites plus l'amour, et la guerre cessera ». Ce n'est pas seulement un chantage sur les hommes et leur libido. C'est le fait qu'il y a un lien direct. Si on cesse de faire l'amour, on cessera d'avoir envie de faire la guerre. Et donc, les femmes, les Athéniennes, retrouvent donc leur capacité d'agir, c'est-à-dire leur virilité. Voilà. Ça peut paraître paradoxal, mais on le comprend en entendant le coryphée Strymodore qui s'adresse ainsi à elle. « Salut à toi, la plus virile de toutes les femmes. C'est le moment d'être bienveillante et méchante, tendre et teigneuse, tolérante et intransigeante, bref, expérimentée, à toi de jouer. Les dirigeants de la Grèce, séduits par ton charme, s'en remettent à toi pour résoudre leurs conflits. » Dans le second volume de l'Europe des femmes, que l'association Mnemosyne a fait récemment paraître, Lucie Jardot a mis à jour des documents originaux très intéressants par lesquels les duchesses de Bourbon, Anne Dauphine et Marie de Berry, tentent, dans les années 1414-1420, de mettre fin au conflit qui, à l'intérieur de la guerre franco-anglaise, oppose la Bourgogne aux Bourbonnais. Bon, l'initiative est assez banale, la forme documentaire aussi, elle reprend les codes de l'asseurement, c'est-à-dire de l'acte de paix qui prévaut dans le mouvement de la trêve de Dieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'originalité vient en fait de la dénomination de ces actes de chancellerie, ainsi désignés, traité de paix et abstinence de guerre. Ce registre de l'abstinence, qui renvoie à la sexualité et aux pulsions intérieures, semble adresser aux hommes cette définition genrée. Faire la paix, c'est faire la guerre à son propre désir de violence. C'est s'abstenir, en somme, de faire usage du sexe du pouvoir. Il y a là, je le répète, davantage qu'un invariant anthropologique, car ce sont les aléas de la guerre de Cent Ans, et d'une façon générale, des transformations dans les pratiques militaires et diplomatiques au XIVe et surtout au XVe siècle, qui participent à la construction du genre féminin pacificateur. Alors là encore, on peut dire que ça puise dans un registre très traditionnel des allégories politiques où la femme est évidemment, où la paix est une femme, en peinture, comme en poésie, comme dans les tableaux vivants, des rituels publics, des entrées royales, qui conjuguent toujours la paix au genre féminin. Il suffit sur ce point de renvoyer aux travaux désormais classiques de Nicolas Offenstadt. Chez Georges Chastelain, c'est « Dame paix » qui exhorte Louis XI et Charles le Téméraire à s'accorder, tandis que dans son « Dit de la naissance Marie », qui célèbre la naissance en 1457 de Marie, fille aînée du duc Charles d'Orléans, et successeur du futur Louis XII, eh bien François Villon loue son rôle naturel de faiseuse de paix. Elle est à peine née que déjà, au fond, elle va paix, bâtir et brasse. La politique des émotions princières est d'ailleurs nettement genrée, débouche sur un partage des rôles dans les couples régnants, aux hommes, cette colère souveraine qu'on appelle l'ire royale, qui est une pure puissance, au sens où elle ne demande qu'à être retenue, c'est une mise en puissance de la force, un côté « retenez-moi ou je fais un malheur », et ce qui retient le courroux royal, c'est la parole apaisante de la reine, par supplication épistolaire, par effusion de larmes, hein, dans l'épisode fameux des bourgeois de Calais, en août 1347, Édouard III veut buter tout le monde, et son épouse, Philippa, par ses pleurs, amollit le cœur impétueux et vengeur du roi. Cette scène de parole inspire des rituels de paix, où les princesses mettent en scène leur soumission, en jouant de cette politique émotionnelle des larmes, endossant ce rôle féminin de la pacificatrice. Ainsi Jeanne de Péchin, dite la dame de Giac, qui, en 1419, pendant la guerre civile, où le royaume de France est déchiré entre Armagnac et Bourguignon, use de belles et douces paroles, ou herbis mellifluis, écrit Michel Pintoin dans la chronique du religieux de Saint-Denis, ajoutant « non sine effusione lacrimarum, non sans effusion de larmes ». Mais n'allez pas croire qu'il ne s'agit que de théâtralité. D'abord parce que le rituel est politiquement efficace, ensuite parce que cette gestuelle démonstrative accompagne une pratique qui est réelle, qui est documentée de la conciliation diplomatique. On pourrait citer, la comtesse de Hainaut dans les années 1337-1340, Blanche de Navarre, Jeanne d'Évreux, 1350, Isabeau de Bavière, évidemment, en 1402, Isabelle de Portugal, ou Marguerite d'Anjou, en 1445. C'est cette fonction féminine de passeuse de paix explique pourquoi nombre de femmes ont pu être employées dans les armées médiévales comme messagères. Dans une étude très récente sur la révolte des villes flamandes contre Maximilien de Habsbourg en 1488-1489, Yael Hammers et Elisa Demetz ont retrouvé la trace de plusieurs dizaines de ces porteuses de missives urbaines dans les cahiers de guerre que tenaient les villes de Gand, Bruges et Ypres, et un bon quart de ces missions, qui étaient des missions dangereuses, parce que c'était aussi des missions de renseignement, ils étaient infiltrés dans les rangs ennemis, un bon quart de ces missions sont tenues par des femmes. On a notamment on découvre quelqu'un comme Josine Elbou, une espionne assez bien rémunérée, qui fait 12 missions et qui se mêle à la troupe des lingères, des prostituées, qui en temps de guerre pouvaient circuler plus aisément. On apprend d'ailleurs que les commissaires bourgeois de Bruges qui veulent se rendre également de l'autre côté des lignes ennemies comme au marché de Thiel se déguisent en femmes, se fondent dans le groupe des marchandes. Enfin bref, on comprend qu'en temps de guerre, les femmes savaient se rendre invisible. Et c'est toute la question historiographique, au fond. Cette invisibilité de la présence féminine dans la guerre, et en particulier dans la guerre médiévale, qui pose un problème historiographique. En 2017, par exemple, la nouvelle du séquençage de l'ADN piégé dans la pulpe dentaire d'un guerrier viking enterré vers 980 avec toutes ses armes non loin de ses deux chevaux, d'ailleurs, sur l'île de Birka, à l'ouest de Stockholm. La nouvelle, donc, de son séquençage ADN fit le tour du monde parce que ce guerrier était une guerrière. On avait donc retrouvé la trace d'une Skaldjamo, une fille au bouclier, cette héroïne des sagas qu'on pensait mythique, mais on avait surtout retrouvé notre propre imaginaire contemporain de la femme viking puissante, etc. Les archéologues, eux, ils avaient trouvé en 1878, ils se posaient pas toutes ces questions. Une tombe avec des bijoux, c'est une tombe de femme. Une tombe avec des armes, c'est une tombe d'homme. Mais ils savaient pourtant, ces archéologues, que on lit dans la Gesta Danorum que son auteur, le moine et chroniqueur Saxo Grammaticus, il fustigeait déjà en 1200 ces Danoises qui s'aventurait sur le champ de bataille. Elles courent d'une façon si avide après la gloire militaire qu'on dirait qu'elles ont changé de sexe. Et maintenant, c'est l'ADN qui fait changer de sexe. Mais tout ça, d'une certaine manière, était là, mais invisible. Il n'y a pas, d'ailleurs, que dans le monde nordique que certaines femmes pouvaient être enterrées comme des hommes parce qu'elles avaient combattu comme des hommes ou héréditaires. Que faire pour les historiennes et les historiens de ces rares témoignages de femmes au combat, qui non seulement sont rares, mais d'une rareté constante. Je songe ici à Paul Veyne qui, dans son texte de 1975, Foucault révolutionne l'histoire, à cette remarque lumineuse que je me permets de citer. L'intuition initiale de Foucault, ce n'est pas la structure, ni la coupure, ni le discours, c'est la rareté. La rareté au sens latin du mot. Les faits humains sont rares. Ils ne sont pas installés dans la plénitude de la raison. Il y a du vide autour d'eux pour d'autres faits que notre sagesse ne devine pas. Car ce qui est pourrait être autre. Alors, transportons-nous par exemple sur un autre champ de bataille afin de traquer cette rareté. Nous sommes le 25 juillet 1190 et l'armée croisée assiégeant Acre a lancé l'assaut contre le camp de Saladin. D'abord victorieux, les chrétiens sont massacrés. L'historien kurde Bahaldin parcourt le terrain jonché de cadavres. « J'ai remarqué les corps de deux femmes », écrit-il. L'une d'elles, à qui il enlève son aume, pleure et respire encore. Les sources arabes documentent une présence féminine minoritaire mais régulière parmi les troupes franques. Décrivant le siège de Jérusalem, Guillaume de Tyr note que même les femmes, oubliant leur sexe et leur faiblesse naturelle, osaient porter les armes et combattre virilement bien au-delà de leurs forces. D'autres notent qu'elles combattent non seulement virilement, mais férocement. Ainsi lit-on dans l'Itinarium Peregrinorum, écrit par un croisé pendant le siège d'Acre, « Nos femmes attrapaient les Turcs par les cheveux, les traitaient avec déshonneur, les humiliaient en leur coupant la gorge et finalement les décapitaient. La faiblesse physique des femmes prolongeait la douleur de la mort parce qu'elles leur coupaient la tête avec des couteaux au lieu d'épées. » Une chose est certaine, nos sources sont particulièrement loquaces sur la participation féminine à la croisade, voire leur désir d'y participer. Et « désir » est d'ailleurs le mot. Ainsi, le chroniqueur anglo-normand Ordéric Vital décrit-il Adèle, la femme du comte Étienne de Blois, le pressé de repartir en Terre Sainte. Il est revenu, mais il doit repartir, et puis si possible, avec elle, il doit reprendre les armes de cette guerre louable, lui demande instamment sa femme au milieu des caresses conjugales. Là, c'est l'inverse. On fait l'amour pour faire la guerre. À l'encontre de leur rôle traditionnel de faiseuse de paix, les femmes des croisés, ou les femmes croisées d'ailleurs, parce qu'on pouvait, sont des va-t-en-guerre. À ceci près qu'il s'agit ici d'une guerre juste. Pour comprendre le lien qui se noue entre femmes viriles et guerre sainte, lien sans lequel je pense que l'aventure de Jeanne d'Arc demeure obscure. Sans doute faut-il remonter à un personnage crucial qui en est, de Jeanne d'Arc, la préfiguration italienne et grégorienne. La comtesse Mathilde de Toscane, celle qui amena l'empereur Henri IV à Canossa en 1077, j'avais fait deux cours là-dessus, en 2018, je crois, oubliant son sexe. Et pareil aux Amazones antiques, elle livra bataille, femme qu'elle était, à des colonnes d'hommes couverts de fer, croit savoir, de sa lointaine Angleterre, le moine Guillaume de Malesbury. Dans une Italie qui est alors en proie à l'imbroglio de la querelle des investitures, qui oppose donc l'empereur au pape, eh bien, seule résiste Mathilde, fille de Pierre. C'est qu'elle a épousé la cause du pape Grégoire VII, c'est qu'elle a épousé la cause de la réforme de l'Église, ce sont ces faits d'armes de cet authentique chef de guerre qui lui vaudront d'ailleurs l'honneur posthume d'être la seule femme inhumée dans la basilique Saint-Pierre, dans un monument dont l'épitaphe, commandé par le pape Urbain VIII en 1635, s'inspirait de la formule de Guillaume de Malmesbury que je viens de citer, la comtesse Mathilde, femme d'un courage viril, défenseur du siège apostolique, qui, oubliant son sexe, s'égala aux Amazones antiques, menant à la guerre des troupes d'hommes bardées de fer. Elle était puissante et rusée dans la bataille. Elle adoptait tour à tour une stratégie de mise en défense de la vallée du Pô et d'incursion militaire audacieuse. Elle était surtout, Mathilde, pour le chroniqueur Berthold de Constance, le plus fidèle des soldats du Christ. Ça veut dire que son courage viril en fait une virago, au sens littéral du terme, mais une virago catholica, pour la défense de l'Église. Et c'est ce que prétend Jean de Mantoue dans son commentaire du Cantique des Cantiques, composé entre 1081 et 1083, ce qui nous permet de comprendre que la féminisation et, dans une certaine manière, l'érotisation de la fonction guerrière permet de conforter la notion de guerre juste. Et que tout ça est lié effectivement à une théologie. Et si les impériaux la traitent de Mars au féminin, ses soutiens, notamment son biographe Anselme de Luc, la compare, Mathilde, à Penthesilée, la reine mystique des Amazones, mais aussi aux personnages bibliques Judith et Déborah. Penthesilée, la reine mythique des Amazones, qui se rendit à Troie pour porter secours à Hector, qui y trouva la mort, lorsque Jeanne d'Arc entre en scène au début du XVe siècle, c'est sur cette scène-là qu'elle agit. La figure de Penthesilée a intégré le groupe des neuf preuses, qui double désormais celui plus traditionnel des neuf preux, incarnation de l'idéal masculin de l'international chevaleresque. C'est une invention récente, comme l'a montré Sophie Cassagne-Brouquet. Le thème des neuf preuses est attesté pour la première fois sur une tenture du château d'Angers en 1389. Et quelques années plus tard, en 1396, Eustache Deschamps les intègre dans une de ses ballades au titre extraordinaire « Si les héros revenaient sur terre, ils seraient étonnés ». Étonné de quoi? Ben de tout ça, de ces changements profonds qui s'amorcent dans les institutions militaires, qui conduisent à la guerre, ces mutations profondes qui iront se renforçant durant la seconde moitié du XVe siècle. C'est bien connu, je ne développe pas, avènement des armées permanentes, essor de l'artillerie, mutation de la guerre de siège, toute cette histoire. On le sait, elle éloigne la pratique de la guerre, la culture combattante, de ses idéaux de prouesse chevaleresque et d'une érotique virilisée du beau combat. Mais on sait également que si les héros des temps jadis, durant lesquels on pouvait chanter du même élan féroce et joyeux, comme le troubadour Bertrand de Born, l'amour des femmes et l'éloge de la violence, si ces héros, disais-je, descendent du ciel, c'est qu'on a besoin de les contempler à nouveau, pour se consoler du désolant spectacle qu'offrent les nouveaux visages de la guerre. Voici pourquoi, et ceci est également très bien connu, les années 1450-1550 forment le grand siècle du revival chevaleresque, culminant avec la mort héroïque du chevalier Bayard le 30 avril 1524, radieux crépuscule qui jette les derniers éclats de l'idéal chevaleresque à l'horizon politique d'une royauté moderne qui exige désormais de ses serviteurs armés, loyauté, sacrifice, sans peur et sans reproche. Car si le poète Jean Marot peut bien continuer à célébrer la bataille comme une mortelle fête, elle est de plus en plus mortelle et de moins en moins festive. Avec l'artillerie, la mort vient de loin, elle abîme les corps, elle meurt surtout aussi les esprits meurtris par cette brutalité inédite de guerre courte et grosse, comme le dit Machiavel. Par exemple, la bataille de Novare, le 6 juin 1513, c'est 10 000 morts en 2 heures. Exécution sommaire des prisonniers, mise à sac des villes, guerre aux civils. Est-ce que les guerres d'Italie furent le théâtre d'une première brutalisation, comme l'affirment certains historiens impressionnés par la description des carnages? On peut en discuter, mais une chose est certaine, c'est qu'elles furent escortées d'un discours social de déploration sur les malheurs d'une guerre atroce, discours qui double les combats d'une guerre de plumes où s'illustrent les poètes qui décideront par leurs vers à qui revient la bataille, la victoire, après des batailles souvent incertaines. Et parmi ces poètes, beaucoup, comme l'a montré Florence Salazar dans sa belle étude sur le lamento dans la Renaissance italienne, prêtent une voix musicale et féminine à l'allégorie d'un pays meurtri qui chante comme une amante abandonnée, faisant de sa plainte une revendication politique pour la paix et pour la justice. Nous voici désormais bien loin du roman de silence. Est-ce à dire que la guerre moderne a rendu impossible toute transgression de genre? Eh bien, c'est peut-être tout le contraire. À lire les travaux « On ne peut plus éclairant » de Véronique Garrigue, on comprend que le temps des guerres de religion fut celui de la virilisation des femmes au combat. L'historienne les décrit d'abord dans leur rôle traditionnel de défense aux remparts. Après tout, d'Aliénor d'Aquitaine qui, en juillet 1202, alors qu'elle est octogénaire hein, quand même, tient le donjon de Mirbeau face aux troupes de son petit-fils Arthur de Bretagne, jusqu'à Jeanne l'aînée, dit Hachette, Jeanne Hachette, qui défend vaillamment les murs de sa ville de Beauvais contre les assauts de Charles le Téméraire, la défense des villes, la défense des forteresses, c'est le moment privilégié pour toutes les femmes qui, quelles que soient leurs conditions, font alors irruption dans le monde masculin de la guerre. Et c'est d'ailleurs presque un stéréotype de genre, hein, la guerre des femmes combattantes subalternes qui s'emparent de tout ce qu'elles ont sous la main, des ustensiles de cuisine, de la poix bouillante jetée du haut des remparts, comme « last resort », comme dit « le dernier recours », comme disent les militaires actuels. On voit donc à la fin, au XVIe siècle, des dames nobles qui défendent leur château, comme Claude de la Tour, comtesse de Tournon, qui par deux fois repousse les assauts des calvinistes en 1567 et 1570, ou l'enrôlement des femmes du peuple dans l'organisation des tours de garde, du service de guet, voire comme les 250 huguenotes qui défendent La Rochelle contre le duc d'Anjou en 1573 dans un travail de terrassement pour lever les talus défensifs. Mais il arrive aussi que les femmes partent directement au combat. Alors, on songe évidemment à Catherine de Médicis, mais aussi à Diane de France, fille illégitime du roi Henri II, que les sources qualifient de femme forte ou de femme virile, et qu'elle rattache aux glorieuses lignées des Amazones et des Preuses. On comprend surtout que la nature confessionnelle du conflit les inscrit, je le répète, dans la perspective que j'ai tenté de tracer aujourd'hui de Mathilde de Toscane à Jeanne d'Arc, où c'est la notion de guerre juste qui militarise ces corps féminins en contribuant, sinon au travestissement, du moins à la transgression des frontières de genre. On pourrait évidemment prolonger les perspectives jusqu'à aujourd'hui, évoquer les combattantes kurdes du Rojava, voire à l'inverse la sainte croisade trumpiste contre les trans, qui, comme le rappelle justement Paul Preciado aujourd'hui même, libère le ressentiment sexo-politique des masculinistes, disons le sexe du pouvoir, en autorisant désormais toutes les violences à l'encontre de quiconque prétendra franchir une frontière. Or, penser veut dire franchir. Penser veut dire franchir. Telle était la maxime d'espérance du grand penseur antifasciste Ernst Bloch, qui disait aussi, toujours dans l'héritage de notre temps, « Il est temps de récupérer quelques vieilles choses, l'urgence de l'heure nous l'ordonne. » Voilà pourquoi je préfère, pour terminer, plutôt que de sauter à pieds joints dans les hantises de notre présent, évoquer en quelques mots l'épilogue de cette histoire qui est paradoxale, qui est ambivalente, dès lors qu'elle devient moderne. Nous avons donc vu que l'exercice du combat, en tant qu'il était soutenu par des valeurs morales et religieuses, rendait au Moyen-Âge les frontières de guerre, les frontières de genre, moins intangibles qu'on ne le pensait. De ce fait, la présence féminine dans les armées de la première modernité est plus importante qu'on ne le pense. C'est aussi parce que, comme l'a montré John Lynn, elles sont des communautés de campagne et que ces communautés sont des communautés domestiques, donc mixtes. Mais tout change à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle où l'encasernement isole les soldats. Ainsi passe-t-on de la bigarrure des virilités guerrières, où les femmes avaient leur place, à l'uniformité de la masculinité militaire, où elles n'en ont plus. La vie militaire devient alors une école du masculin, plus de cadors pour dire « tu seras un homme, ma fille », mais des bons pères sévères qui font des hommes avec des fils. Comme te voilà robuste, les troupes font bien un homme, tu as servi le roi, tu as servi la patrie, tu n'es plus un paysan, entend-on dans une chanson composée par Sedaine en 1769, faisant de l'armée une institution sociale totale. Et ce, avec des réactions en chaîne, certaines accablantes, le développement du viol des femmes comme acte de guerre, d'autres plus étonnantes. Enrôlés, par exemple, les jeunes soldats devaient se choisir un nom de guerre. Or, une enquête d'Hervé de Révillon, dans un échantillon de 1000 recrues des Invalides entre 1694 et 1696, montre que le premier nom choisi est Fleur. C'est à désespérer de fabriquer des garçons. Plutôt que de choisir des surnoms à consonance guerrière, comme Tranche-Montagne, par exemple, ils optent pour Fleur, Joli-Cœur ou La Tulipe, qui lui aussi devient un héros de chanson. Chassé le féminin, il revient au galop. Alors voilà une dernière scène sur laquelle je vous laisse. Le 21 Vendémiaire en deux, soit le samedi 12 octobre 1793, éclairé par des torches, des ouvriers descendent dans le caveau des Bourbons, dans la crypte de la basilique de Saint-Denis. Ils sont accompagnés du commissaire au plomb, dont Germain Poirier, c'est-à-dire un moine archiviste, et c'est lui qui raconte l'histoire. Lorsqu'on ouvre le caveau d'Henri IV, on retrouve ses traits à peine altérés et sa barbe blanche, presque intacte. Alors, un soldat s'approche et je vous lis le texte. Mu par un martial enthousiasme, il se précipita sur le cadavre du vainqueur de la Ligue et après un long silence d'admiration, tira son sabre, lui coupa une longue mèche de sa barbe, qui était encore fraîche, et s'écria en même temps, en termes énergiques et vraiment militaires, « Moi aussi, je suis soldat français. Désormais, je n'aurai plus d'autres moustaches. » Et plaçant cette mèche précieuse sur sa lèvre supérieure, « Maintenant, je suis sûr de vaincre les ennemis de la France et je marche à la victoire. » Alors, au moment du danger, à chacun de choisir ses vieilles choses. En récupérant une vieille moustache, le soldat de l'an 2 voulut partir au combat, investi de la force virile du roi. Je choisis pour ma part Jeanne d'Arc, Fanfan la Tulipe et le chevalier Silence. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr. Les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.